Merci à tous d'être venus, merci Audrey d'avoir présenté cette soirée. Alors je vous explique, l'idée c'est donc de faire une petite table ronde autour de la thématique écologie et science-fiction. Évidemment, on va parler des romans qui parlent d'écologie, et on a pour ça des auteurs qui vont nous dire plein de choses, mais on va aussi s'intéresser à quand on crée une planète, quand on crée un univers, quelle est la place de l'écologie et comment est-ce qu'on met en place quelque chose qui tient le coup, parce que ça, c'est bien beau de parler, d'inventer des histoires. Mais faut-il que le contenant puisse être crédible aussi si on peut, si on a envie d'y croire. Je vais m'asseoir aussi bien. Alors, les trois intervenants aujourd'hui, c'est vraiment intéressant dans le choix parce qu'en plus, on a des thématiques qui sont parfois très différentes des trois. Et puis, chacun, on commence à des périodes différentes. Donc, on va pouvoir aussi parler évolution un petit peu des thématiques dans les romans de science-fiction. Évolution ou pas, d'ailleurs. Peut-être qu'il n'y a pas d'évolution. Non, personne n'est. Bref, on est tous plus vieux que toi, là. Je vais commencer par Jean-Pierre Andrevon, donc notre grenoblois, qui vient de pas très loin. Carrière commencée en 1968. Alors, je dis le poncif, Jean-Pierre, comme ça, c'est fait. En mai 1968, sa première nouvelle dans fiction. On va parler de différents romans avec lui. Notamment, je voudrais évoquer Le Monde Enfin, un monde débarrassé un peu des humains. Donc, on va voir un petit peu comment ça marche. On parlera notamment d'une nouvelle qui avait été publiée dans Moisson Future, avec une nouvelle où alors il n'y avait vraiment plus d'humains du tout. Donc, voilà.
Mon
Mais.
rêve.
Hein? Le
rêve.
rêve. On parlera aussi d'Hydra, une immense planète où il n'y a que de l'eau. Le rêve pour tous ceux qui aiment la piscine et nager. Enfin voilà, Jean-Pierre aura. L'écologie, c'est une de ses thématiques, donc on va pouvoir vraiment en parler. Au milieu, Alain Damasio. Alain Damasio, donc La Horde du Contrevent, La Zone du Dehors, bientôt Les Furtifs. Ouais,
Oui.
bientôt. C'est pareil, on va pouvoir parler un petit peu avec Alain de comment est-ce qu'il a imaginé le monde de La Horde du Contrevent, par exemple. Alors, on peut parler écologie sur la zone du dehors, mais alors du coup, est-ce qu'il y a vraiment des plantes vertes dans la zone du dehors? C'est pas sûr. Si vous l'avez lu, vous verrez que c'est pas sûr, mais on pourra peut-être en parler aussi. Justement, un choix par défaut. Et puis, donc celui qui est le plus à ma gauche et le plus à votre droite, enfin, comme c'est moi, Laurent Genefort. Laurent Genefort. Alors, Laurent, il a l'habitude, pour le coup, d'inventer des planètes. C'est pas son dada, mais enfin, il le fait quand même assez souvent dans ses romans de science-fiction. Moi, je me souviens de planètes, notamment pleines de lave, où on a de gigantesques îles qui dérivent sur des océans de lave. On va pouvoir évidemment parler d'Omal, son cycle avec une immense planète dont il nous détaillera un petit peu la conception, et vous verrez aussi qu'en matière d'écologie, il y a pas mal de choses à dire du côté de Laurent. Voilà un petit peu pour la grande introduction. Alors, je vous promets que c'est la première fois que je parle aussi longtemps. Normalement, après, je ferai beaucoup plus court. Je vous donne un petit peu le timing. On discute un petit peu avec nos auteurs pendant trois quarts d'heure, une heure, enfin voilà. Et puis après, je vous passe la parole et c'est vous qui faites le boulot. Si pendant nos débats, il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, qu'il n'hésite pas. Hein, on a un micro exprès, un micro volant, rien que pour ça. Enfin, volant, je l'apporterai. Je vous jetterai pas. Promis. On va peut-être passer. Alors, on va faire un petit tour de table, hein, un petit peu peut-être voir univers par univers comment est-ce qu'ils ont construit leur monde pour y placer leur roman, vraiment la part écologique. Et puis ensuite, on rentrera un petit peu plus dans les thèmes. On va commencer par toi, Alain. Alors, pour La Route du Contrevent, par exemple, comment tu as imaginé le contenant de cette histoire?
Bah, moi, à chaque fois, je pars de façon très abstraite, quoi. C'est-à-dire, je pars généralement d'un concept philosophique qui me paraît suffisamment fort, suffisamment, moi j'appelle ça totipotent, c'est-à-dire capable de se déployer dans énormément de directions à la fois. Et sur la Horde, le concept des concepts, c'était le mouvement, quoi. C'était de dire, on est dans un monde où même la table que vous voyez là, même la bouteille, sont en mouvement, sont en fluence, n'arrêtent pas de bouger. Sauf que le mouvement intérieur à tous ces objets, à toute cette matière, c'est le vent. Voilà. Donc j'étais parti sur vraiment une sorte d'ontologie de l'air, comme ça, ontologie du vent, et j'avais décidé de bâtir la totalité de l'univers à partir de ça. Donc évidemment, immédiatement, j'ai eu des enjeux d'aérodynamique qui étaient très forts, évidemment sur les véhicules, évidemment sur les villages, sur la façon de construire les villages. Donc j'avais commencer à bâtir des villages comme ça en gouttes d'eau avec des champs cultivés qui étaient surbaissés pour éviter le vent. J'avais travaillé également sur les plantes anémophiles, c'est-à-dire les plantes qui se dispersent avec le vent, et puis sur l'adaptation au vent. Donc j'avais beaucoup de chance à l'époque, j'étais dans le Vercors, et un de mes meilleurs amis était jardinier paysagiste, et du coup il m'avait expliqué un peu tout, les mécanismes d'adaptation, et notamment en haute montagne, sur le Vercors, où il y a des endroits extrêmement ventés. Je ne sais pas si vous connaissez Fondurles, pour ceux qui sont de la région, c'est un grand plateau comme ça qui est battu par les vents. Et il m'avait montré comment les arbres se constituaient. Et ça a donné des choses très rapidement intéressantes. Je me rappelle, je donne juste un exemple, parce qu'on peut en parler des heures, mais c'était l'idée de forêt linéaire, c'est-à-dire de forêt qui soit uniquement des lignes comme ça. C'est-à-dire qu'il me montrait que le premier arbre qui peut pousser, étant donné que le vent évapore énormément ce qui se dépose normalement sur les feuilles, c'est-à-dire l'humidité qui normalement se dépose sur les feuilles et permet à l'arbre de pousser, quand il y a du vent, évidemment, elle est chassée. Donc ce qui fait que les arbres sont très petits. Et que donc, il y a un premier arbre qui va monter comme ça, tout tassé, tout râblé, tout robuste. Et puis derrière, il va lâcher une graine. Et puis il y aura un arbre un tout petit peu mieux protégé derrière qui va se créer. Et ainsi de suite. Et donc, il y avait comme ça une montée d'arbres en triangle, en fait. Et dans la horte, c'est un des éléments du décor assez important. Ces forêts linéaires qui définissent comme ça des bandes de contre et dans lesquelles il remonte, quoi. Donc voilà, c'est des inspirations qui sont. Après, c'est des effets de consistance et de cohérence. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez posé votre concept de départ, là la planète, ben, c'était une planète saturée de vent. Hein, donc vraiment, un vent, allez, en 100-150 km/h en permanence, qui est en fait lié à la force de Coriolis. Hein, c'est-à-dire que la planète tourne très vite et du coup, elle génère un vent comme ça permanent, mais les gens sur la planète ne le savent pas. Et du coup, ben, voilà, on bâtit tout à partir de ça. Et on essaie d'être le plus cohérent, le plus réaliste possible. Donc c'est, moi j'appelle ça du réel fantastique, c'est-à-dire à partir d'une condition fantastique de départ, on essaye d'être le plus extrêmement réaliste possible dans l'univers.
Ouais, c'était important vraiment pour toi qu'il y ait une crédibilité là-dessus?
Ah oui, complètement. Bah, c'est toujours pareil en science-fiction. Si tu veux que quelque chose entre dans l'esprit du lecteur et s'incarne dans le lecteur et qu'il y ait une identification au personnage, à l'univers, c'est très difficile d'entrer dans un univers complètement neuf comme ça. Donc si tu n'as pas un ancrage sensuel très fort et si tu n'as pas une cohérence et une crédibilité scientifique, ça rend plus difficile l'entrée, quoi, pour moi. Donc, ouais, c'était important. Et c'est, ouais.
Et est-ce qu'il y a des éléments purement imaginaires que tu as extrapolés par rapport à la réalité?
Oui, après, il y a toujours une injection fantastique. Bon, par exemple, il y a des méduses de vent qui dérivent comme ça. Mais pour moi, pas tant que ça, en fait. Parce que même les sangliers de vent que j'avais posés, les gorses, là, qui sont des sangliers très lourds et avec un nez comme ça aérodynamique et qui remonte le vent, bon, c'est posé vraiment avec une logique par rapport à l'univers. Donc, pour moi, il n'y a pas réellement du fantastique. C'est en ce sens-là que je me revendique vraiment comme auteur de science-fiction et pas de fantasy. C'est que pour moi, il y a toujours une crédibilité au moins potentielle de l'univers.
Même question un petit peu, Jean-Pierre, quand tu imagines certains romans. Alors, c'est vrai que je pense à Hydra parce qu'il m'a. Il a marqué ma jeunesse de jeune lecteur. Cette planète entièrement pleine d'eau.
Aquatique.
Oui, aquatique, c'est un joli mot, aquatique. Je vais le noter. Comment est-ce que toi tu les conseilles, tu abordes cette question effectivement du contenant et de l'écologie des planètes ou des mondes dans lesquels tu places tes histoires?
D'une part, moi je me suis surtout occupé de la Terre, effectivement, parce que je m'évade rarement dans l'espace où j'ai peu d'imagination, voire pas du tout. Donc je suis guère capable de concevoir une écologie qui serait étrangère à celle de la Terre, parce que celle de la Terre, c'est une écologie basée sur le carbone, on vit dedans, avec les végétaux, les animaux, tout ce qui concerne la planète, un Gaïa, si on veut lui donner un nom comme ça. Et donc c'est vrai que Hydra et Gandhar, je pense que ça a été les deux seuls mondes à peu près que j'ai créés, sans chercher vraiment une cohérence en fait. Hein. Autant quand je parle de la Terre qui se meurt, la Terre qui est détruite, mais ça on pourra y revenir, puisque ce sont mes thèmes, comme tu disais, favoris. Autant pour les planètes étrangères, effectivement, je cherche une certaine logique, mais je peux dire qu'elle vient comme ça. Et Hydra, il se trouve que j'écris beaucoup d'après mes rêves, et quand j'ai écrit Hydra, c'était les premières lignes, en tout cas les premières notes, c'était au sortir d'un rêve où je voyais vraiment ce monde couvert d'eau et à la surface, comme ça flottant ou retenu par des pilotis, je ne sais plus très bien. Il y avait une espèce de plateau métallique avec des gens comme ça, comme une plateforme pétrolifère. Donc je suis vraiment parti de là. Je n'ai pas cherché ailleurs. Pourquoi il n'y aurait pas des planètes entièrement constituées d'eau? C'est très probable qu'il y en ait dans l'univers. Hein. Donc voilà, ça me paraissait. Et puis en plus, Hydra, c'est quand même la base, c'est quand même un roman policier, puisqu'il y a un meurtre assez mystérieux. On ne sait pas qui l'a. C'est un peu le site d'Édipe Tinègre, hein, où les 6 hommes morts. On ne sait pas parmi les 7 membres permanents de cette base qui a tué. Donc voilà, je me suis servi de ça, en fait, hein, un lieu isolé, un lieu clos. Qui est le coupable? Il ne peut pas venir d'ailleurs, il ne peut pas s'échapper. Et puis tout autour, cette masse d'eau avec évidemment des créatures marines qui ne se trouvent pas sur Terre. Il n'y a pas de baleines, il n'y a pas de requins, il n'y a pas de crocodiles marins, mais il y a d'autres monstres que j'ai inventés. Donc voilà, moi je pense que Hydra, c'est effectivement stricto sensu de la science-fiction, mais sans que j'ai cherché, comme Alain Damasio, à lui donner un maillage très réaliste, très écologique. Voilà ce que je peux dire sur Hydra.
Et sur Gandahar, alors c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais c'est un de tes grands cycles. Pareil, la question de l'écologie, de l'environnement.
Ben, Gandahar, c'est une espèce de terre qui a réussi, si je peux dire, parce que notre terre, elle ne réussit pas vraiment. Donc j'ai voulu créer un monde sylvestre, un monde que les humains n'attaquaient pas, ne détruisaient pas, comme ils sont en train de le faire de notre pauvre planète. Donc un monde avec des saisons assez stabilisées, il n'y a pas de saison sur Gandahar, sauf qu'à un moment donné, sur un des romans, il se passe quelque chose qui fait que l'hiver arrive, mais ça, vous n'avez qu'à le lire, hein. si vous voulez savoir faire l'histoire. Et j'ai cherché effectivement le monde idéal qui tient un petit peu à la campagne assez régulée quand même, hein, cultivée par l'homme, telle qu'elle pouvait exister, je ne sais pas, au XVIIe, XVIIIe siècle. Avec quelque chose un peu de l'Afrique aussi, l'Afrique mystique de Tarzan, avec des grandes forêts, et puis des animaux qui ne sont pas trop agressifs parce qu'ils se sont arrêtés au niveau des oiseaux. Hein, l'évolution n'est pas allée jusqu'aux mammifères. Donc voilà, j'ai essayé quand même effectivement de donner une certaine logique. Est-ce que ce monde serait viable? Peut-être, hein, j'en sais rien. Il y a certainement des planètes sylvestres à température tempérée où l'évolution s'est arrêtée aux reptiles ou aux oiseaux. J'ai bien peur qu'on ne le voit jamais, non, il n'y aura pas assez vieux pour ça. Mais voilà ce que j'ai cherché à faire. Et surtout, ce que j'ai cherché à dire, plus qu'à faire, c'est que l'homme pouvait simplement, en laissant pousser des fruits sur les arbres et en les mangeant, en se servant d'animaux, évidemment, ils se servent d'animaux de trait. Donc on peut dire que c'est des animaux qui sont pris comme des esclaves mécaniques, mais c'est des animaux qui soignent, qui ne maltraitent pas. Et voilà, il n'y a pas de guerre, sauf que comme il faut une histoire dans tout roman, il y a une guerre qui arrive, mais c'est des envahisseurs qui arrivent effectivement de l'extérieur, pas tout à fait d'extérieur, mais là encore, lisez. Voilà.
tu dis que tu ne cherches pas forcément une crédibilité, mais les choses sont quand même bien posées, bien claires, en tout cas dans ton esprit, sur cet environnement.
Oui, je crois que tout le monde a envie de vivre à la campagne, avec une source pas polluée à côté, des poissons qui nagent dedans. Un arbre qui vous donne de l'ombre l'été, des oiseaux qui chantent dans les arbres, une vache peut-être pour cultiver le champ. Tout le monde a envie de ça, donc j'ai imaginé une planète entière qui est ça, voilà. C'est un espèce de rêve, un espèce de paradis perdu, ou trouvé, ou retrouvé, ou impossible à imaginer, à trouver. Enfin voilà, une espèce de paradis utopique, quoi, une utopie campagnarde et paisible, voilà.
C'est vraiment l'inverse complètement du travail du furet, quoi.
Oui, tout à fait, oui. Parce que le travail du furet, là, on revient sur la Terre, et la Terre est devenue une ville immense, hein, puisque ça se passe dans une ville qui s'appelle Centrum, qui couvre à peu près toute l'Europe, en tout cas entre Paris, Berlin, je ne sais pas, Prague. Et je crois que c'est le syndrome du rat, le syndrome du hamster, quand il y a trop de population, là, par exemple, vous allez vous battre bientôt, vous allez voir. Fatalement, on se tape sur la figure, on se tape sur la gueule, quoi, alors. Et ça, j'ai dû même m'inspirer, mais très lointainement, parce que ce n'est pas un de mes auteurs favoris, mais quand même d'Asimov, avec son cycle des cavernes d'acier, et puis de Face au feu du soleil. Les cavernes d'acier, c'est un monde, la terre future qui est desséchée, qui est racornie, des villes comme ça, sous globe, dont les gens ne sortent jamais. Et puis, il y a une surpopulation énorme à l'intérieur. Et puis, Face au feu du soleil, c'est les gens qui ont eu le courage, dans un lointain passé, d'aller dans les étoiles, et qui vivent dans des espèces de latifondiers, comme ça, il y a une famille qui a des hectares et des hectares pour être seule, et qui sont servis par des robots. Et là, comme ils sont seuls, ils ne se tapent pas sur la gueule, parce qu'ils ont tellement la phobie de l'autre, du prochain, qu'ils ne se voient jamais entre eux, ils communiquent par des moyens comme ça, des écrans, enfin, etc. Et ils se touchent, ils ne peuvent même pas se toucher, ils ne pourraient pas supposer toucher quelqu'un qui est étranger. Donc voilà, c'est les deux cauchemars, si on veut, la solitude absolue et puis la surpopulation, que j'ai voulu éviter dans Gandahar et que je mets comme ça en relief dans le travail du Furet, où, bon, là encore, vous l'avez eu ou pas, si vous ne l'avez pas vu, lisez-le. Comme il y a trop de monde sur Terre, ben, je peux faire un peu ma pub, hein. Comme il y a trop de monde sur Terre, il y a des fonctionnaires comme ça qui doivent tuer 10 ou 20 personnes chaque jour pour éliminer 400 000 personnes chaque jour à travers toute l'Europe pour que le monde n'explose pas par surpopulation. Ce n'est pas, pas une solution que je prône.
Il y aura une séance de dédicace hein, juste après. On a bien passé le message.
Pour les survivants.
Pour les survivants à cette conférence. Alors, Laurent, tu es un petit peu le champion de toute catégorie de création d'univers. Parle-nous un petit peu de comment tu as fait au mal.
En nombre, oui.
Et en nombre aussi. Enfin, comment toi, tu t'y prends ?
Moi, c'est ma marotte, en fait. Je fais des planètes opéras, c'est-à-dire des mondes où, finalement, le vrai héros de l'aventure, c'est le monde lui-même. Donc, oui, j'ai l'habitude de créer des bestioles un peu bizarres. Alors, pour Omal, c'était... l'idée, c'est une sphère de Dyson, pour ceux qui connaissent. Bon, grosso modo, c'est une grosse coquille d'œuf autour d'une étoile. La coquille, elle tourne sur elle-même, donc ça induit une gravité artificielle. Et la bande équatoriale est atmosphérisée, donc ce qui permet à des gens de vivre à l'intérieur de cette coquille. Cette coquille étant ayant un rayon de une unité astronomique, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil. Donc on a donc une surface habitable de quelque chose comme 60 millions de fois la surface de la Terre. Et plein d'espèces ont été importées, dont des échantillons d'humanité qui se retrouvent là, comme ça, larguées sans savoir pourquoi, en fait. Et donc elle va devoir vivre, s'étendre et puis cohabiter avec d'autres espèces intelligentes. Voilà. Pendant le premier millénaire de colonisation de cet artefact, ça va être la guerre avec d'autres espèces. Et cette guerre, elle passe par des conflits de territoire, mais aussi une guerre écocide, c'est-à-dire une guerre où c'est pas seulement les espèces intelligentes qui cohabitent avec l'humanité, c'est-à-dire grosso modo, il y en a deux, hein, qui sont ses proches voisins, qui sont les Chiles et les Hodkin. Il y a eu une sorte de théorisation dans les sociétés humaines qui est que l'ennemi, c'est aussi les espèces animales et végétales qui servent de substrat aux Chiles et aux Hodkin. Donc en fait, il y a une guerre d'écosystèmes à laquelle se livre l'humanité pour essayer de conquérir du territoire ou de maintenir le sien. En fait.
Comment t'as imaginé justement l'écologie de ce monde-là, la faune, la flore?
Alors comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que c'est une création langagière. Donc déjà j'ai créé deux langages différents qui sont celui des Chiles et des Hodkin. À partir de là, il y a des animaux et des végétaux. Alors ma façon de créer des animaux et des végétaux, je ne les décris pas toujours. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt les interactions que ces espèces ont les unes avec les autres et avec les espèces et avec l'humanité. En fait. C'est ça qui je trouve est plus intéressant, c'est leur place et leur fonction dans la biosphère. Voilà. Donc je fonctionne plutôt comme ça. Le nom est suffisamment évocateur. Une lignule, par exemple, on imagine bien une sorte de petit insecte qui va vous bourdonner autour. Voilà. C'est des créations verbales qui forment un peu elles-mêmes un écosystème, on va dire.
Pour
inventer des racines, des choses comme ça. Surtout, c'est intéressant aussi quand on imagine que ces espèces... on essaye de spéculer aussi sur les espèces. C'est-à-dire que c'est ça aussi, la SF s'est spéculée à partir de références terriennes et essayer de s'en échapper. Donc, par exemple, il y a grosso modo trois règnes, les végétaux, les animaux et les champignons, on va dire. Plus de règnes bicrambiens, mais au niveau macroscopique, c'est ça. Voilà, quelle autre règle on pourrait imaginer? Est-ce qu'il peut y avoir des rapports, d'autres rapports que celui de proie prédateur, commensal ou symbiotique? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres types de relations entre les espèces? Ça aussi, c'est intéressant. Voilà, donc essayer de creuser des pistes qui soient voilà, qui permettent de favoriser l'immersion et de se frotter à une vraie altérité. Parce que c'est vrai que dans les années, jusqu'aux années 60, on pouvait faire une planète rouge avec de l'herbe bleue, ça fonctionnait. Voilà, les Van Vogt, les premiers bouquins de Aldi, c'était ça. Mais Dune est passé par là, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus suffisant. Il faut, quand on crée un monde, on a quand même intérêt à blinder un peu au niveau description de la biosphère, sauf évidemment si on fait du Star Wars où on peut avoir des bestioles qui volettent, même qui font des bestioles de 10 kilos avec des pizzas comme ça, qui volettent. C'est pas gênant parce que on sait qu'on n'est pas dans un niveau de réalisme, et donc du coup ça passera bien au même niveau que les sabres laser ou les bruits des vaisseaux dans l'espace. Les bestioles peuvent être des simples dinosaures réhabillés un peu. C'est pas choquant parce que là on est dans la métaphore. Voilà. Si on veut faire une SF un petit peu réaliste, un minimum réaliste, là faut se creuser un peu, je pense.
Et est-ce que et c'est une
Vous m'entendez ?
Oui,
c'est une question ouverte à vous trois. Est-ce que finalement, ces histoires d'environnement, d'écologie, c'est pas un petit peu de l'histoire dans l'histoire ? Vous racontez d'autres choses à partir des environnements que vous créez ? Alain, Laurent, t'as commencé à y répondre. Pierre, vous battez pas. Hein.
Alors, pour en terminer, justement, moi, je commence par le monde, en fait. Je commence par le monde. Je sais que, justement, je suis un des rares à le faire. Mais justement, j'aime bien commencer par peupler d'abord la lithosphère, après l'écosphère, etc. Et en fait, c'est quand les personnages arrivent, le monde est déjà constitué. Et souvent, le fait d'avoir imaginé comme ça un monde avec des particularités exotiques, déjà, ça me donne des éléments d'histoire. Donc c'est pour ça que souvent, je fais des planètes. C'est en ça que c'est des vraies planètes opéra. Ce que je fais, c'est-à-dire que les humains arrivent avec déjà, ils sont déjà insérés dans une trame. Donc après, ils vont y, voilà, où ils vont devoir se dépatouiller. La SF, c'est ça. La littérature blanche, souvent, ils vont traiter de l'homme. Et je trouve que la SF, elle traite de l'homme dans quelque chose. Donc que ce soit une planète étrangère ou un... donc au niveau de la nature, d'une nature étrangère, ou un environnement technologique hyper sophistiqué, mais c'est la même chose au final. C'est-à-dire que c'est l'homme qui n'est pas tout seul. Il est intégré dans quelque chose qui est plus grand que lui.
Alors ?
Oui, moi je procède exactement de la même façon, et j'ai même l'impression que si tu veux faire de la bonne SF, tu es obligé de faire comme ça. C'est-à-dire que si tu poses d'abord tes personnages, ton histoire, et qu'ensuite tu imagines un monde autour, tu vas faire un décor. Tu vois, c'est par exemple pour moi c'est le problème de Star Wars, quoi. Star Wars, les villes de Star Wars, c'est clairement des décors, c'est absolument irréaliste. On peut pas habiter dans ces villes, on n'imagine même pas des êtres humains y être. C'est totalement, en ce sens-là, c'est de la fantasy, quoi. Oui, Star Wars est de la fantasy, voilà. C'est la nouvelle histoire. Mais donc moi je procède de la même façon. Donc je pars, comme j'ai dit, je pars souvent d'un concept, d'une idée. Par exemple là, je partais du vent sur la Horde. J'en déduis un monde. Effectivement, un monde avec ses règles physiques, avec ses villas. Moi, par exemple, sur la Horde, clairement, comme le vent balaye la surface et que les gens croient que la Terre est plate, en tout cas, dommage pour ceux qui vont le lire et qui sont spoilés, tant pis pour vous. Je suis comme Jean-Pierre, il faut lire les livres. Donc quand vous faites ça et que vous imaginez qu'il y a un extrême amont et un extrême aval, très logiquement, l'extrême aval, ça va être un endroit où il y aura la plus grande ville de l'univers, parce que ceux qui dérivent, ceux qui se laissent aller, ceux qui se laissent porter, etc., et c'est la majorité généralement de l'espèce humaine, arriveront sur la falaise qui borde l'extrême aval, et donc la plus grosse ville, la mégalopole, elle se situe comme ça en extrême aval. Donc il y a les logiques qui se mettent en place comme ça. Donc vous avez comme ça la bande, moi j'avais la bande de contre, comme ça la bande où la Horde va remonter, J'avais cet univers-là, j'avais l'architecture aérodynamique, et très vite j'ai eu aussi ce groupe en disant voilà, je voyais un immense désert le tout début. C'est toujours intéressant, comme dit Jean-Pierre, là, le départ. Souvent c'est un rêve ou c'est une image extrêmement simple, quoi. Et moi, la première image j'avais, je voyais un vent permanent, quoi. Je me rappelle de la naissance de l'idée, hein, sur ce livre. C'était, je venais de lire, et c'est très rare que des inspirations viennent d'autres livres, mais là pour le coup c'était le cas. Je venais de lire une nouvelle de Bradbury que j'adore qui s'appelle La pluie. Où, voilà, c'est dans L'Homme illustré, c'est une nouvelle mais simplissime dans la construction, mais ça m'a, moi, ouvert le crâne comme si un coup de hache m'avait fendu le cortex, comme ça. C'est-à-dire que la nouvelle, c'est, on est sur Vénus, il pleut en permanence, c'est des cataractes, et il y a un petit groupe comme ça d'une dizaine de personnes qui cherchent à s'abriter dans une coupole solaire. Il n'y a pas plus simple comme clé narrative. Et on vit dans l'élément pluie, ceux qui avancent s'écroulent quand ils veulent dormir. Ils sont comme ça, les plantes leur poussent dans les oreilles, pourrissent, repoussent, repourrissent. Enfin, c'est l'horreur. Il y a des lacis de flaques partout. Et à la fin, ils en ont tellement marre pour se suicider, ils ouvrent la bouche, ils se laissent noyer par la pluie, comme ça. Et il y en a un qui, à la fin, arrive quand même à la coupole solaire. Et j'avais été frappé parce que tout l'univers était porté par l'élément, était porté par la pluie. Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit, mais un élément peut porter un récit, quoi. Indépendamment des personnages. Les personnages, je m'en fous, je ne me rappelle même plus qui fait quoi dans cette nouvelle. Je me rappelle que de la pluie, quoi. Et là, j'étais à Paris à ce moment-là, je suis sorti dans la rue, et dans ma tête, j'ai basculé le plan vertical de la pluie à l'horizontale, comme ça. Et ça, c'est des effets de science-fiction et d'imagination qu'on fait sans arrêt, tu vois, quand Laurent, là, il parle de dire, bon, tiens, j'ai un renne qui est commensal, symbiotique ou prédateur, est-ce qu'il n'y aurait pas une quatrième façon de vivre les rapports humains, quoi ? Si je dis, il y a du végétal, il y a du minéral, il y a de l'animal, est-ce qu'il n'y aurait pas un quatrième, comme ça, rien ? Et on est tout le temps comme ça, à se dire, tiens, est-ce que si j'ai le plan vertical, est-ce qu'il pourrait pas être horizontal ? Et s'il n'est pas horizontal, est-ce qu'il pourrait pas venir du bas ? Enfin, on a toujours cette façon de tordre la réalité, de la modifier. Et ça, c'est propre au travail de l'imagination. C'est quelque chose. Moi, j'avais été frappé, moi, je dérive, mais peu importe. C'est un philosophe Husserl qui dit ça aussi en phénoménologie. Il dit, si par exemple, vous imaginez une table, ok, la première table qui vous vient, imaginons, c'est une table avec quatre pieds, un plateau en bois. Et puis il vous dit, essayez d'imaginer que la table n'est pas en bois, quoi. Alors, vous faites en fer, en plastique, en marbre. Après, imaginez qu'elle n'est pas 4 pieds, elle a 3 pieds, ok, elle a 6 pieds. Elle n'est pas rectangulaire, elle est carrée. Non, elle n'est pas carrée, elle est circulaire, etc. Et puis après, il y a un trou au milieu. Et comme ça, vous balayez toutes les possibilités jusqu'à arriver à la table la plus originale possible, quoi. Voilà, tu vois, une table d'herbe, n'importe quoi. Bon, une table dans un arbre. Bon. Et nous, on fait pareil. Et moi, sur le plan comme ça de j'avais basculé la pluie à l'horizontale, et donc forcément, bah, c'était un vent, quoi, tout simplement. Et j'ai commencé à avancer dans la rue en ayant ce vent. En plus, il y avait du vent, c'était la rue Montorgueil à Paris. Et tout de suite, j'ai vu le désert et j'ai vu comme ça une espèce de groupe humain, comme un pack de rugby, qui remontait le vent du désert. Voilà. Et j'avais que ça pendant un an. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai construit tout l'univers autour avant, donc l'architecture, la faune, la flore, etc. Et j'avais juste ce groupe. Et c'est après que je me suis posé la question du groupe, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses fonctions, celui qui est devant, comment on l'appelle, le traceur, etc. Les noms, c'est super important. Elle disait la minule, voilà, vous avez un nom. Moi, le gorse, tout de suite, vous voyez un sanglier qui remonte avec la force. Vous avez la force, vous avez le goré. Et quand vous trouvez le bon nom, généralement, vous avez l'animal, vous avez le végétal. Ça, c'est incroyable. Et vous avez même le personnage. Et voilà, donc j'avais. Et donc, je suis parti effectivement de l'univers. Je suis arrivé au personnage. Et l'histoire ne vient qu'après. Voilà. L'histoire vient au bout. Donc les personnages sont une coagulation de l'univers et l'histoire ça se définit à partir des personnages. Mais des gens font complètement différemment. Une fois j'ai discuté avec Pierre Bordage comme ça et il me parlait d'un roman, je sais plus comment ça s'appelle, Les Porteurs d'âme, je crois que c'est ça. Et je lui dis mais comment tu démarres ? Et il me dit ben moi j'ai eu en tête un étudiant des écoles de commerce, l'élite de l'élite de l'élite, tu vois, et puis une sans-papiers. Et j'ai essayé d'imaginer mon histoire à partir de ça. Voilà, il est parti de ça. Voilà, donc c'est une façon de faire. On part des personnages on définit une histoire et ensuite on met le monde autour, quoi. Mais voilà, moi je suis plutôt créateur d'univers, c'est ouais, clairement comme Laurent.
On commence à voir un petit peu les propos hein, derrière. En fait, imaginer un univers, c'est jamais innocent.
Puis c'est pas innocent politiquement, c'est pas innocent dans la vision du monde. Enfin bon, ça, on en parlera.
C'est mes questions d'après. avant de se les poser, on va commencer à dériver. Je voudrais qu'on parle du monde enfin. Pour le coup, pas forcément une écologie extraplanétaire, mais une écologie terrestre, bien terrestre, qui reprend le dessus. Une nature qui reprend le dessus.
Oui, mais ça, c'est un vieux rêve, c'est un vieux fantasme. Quoi, voir la Terre reverdir, voir les animaux reconquérir les territoires dont ils ont été chassés, couvrir les eaux, tout ça, c'est un rêve enfantin. Et c'est tout simple, quoi. C'est la Terre qui, voilà, qui retourne pas à un état antérieur, parce qu'il n'y a jamais un état antérieur. Hein. Dire c'est un mille avant, c'est la pire des stupidités. Il y a toujours avant, 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 avant. Mais j'ai imaginé que, effectivement, l'espèce humaine s'éteint petit à petit, assez rapidement quand même, en plusieurs vagues de grandes épidémies. Disons que c'est l'Ebola, pourquoi pas, ou un Ebola mutant contre lequel on n'aurait pas de vaccin, pas de parade. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les gens recommencent à vivre comme leurs grands-parents, puis comme ils vivaient au 19e siècle, et comme ils vivaient au 18e siècle. Il n'y a plus d'électricité, les centrales s'éteignent peu à peu, donc forcément, ils doivent retourner à la charrue ou bêcher à la main. Les ampoules électriques, personne ne les fabrique plus, donc même s'ils pouvaient faire l'électricité avec la force d'un torrent, par exemple, ils ne pourraient pas, parce que personne ne sait plus les fabriquer. Donc là, effectivement, j'ai essayé de me dire, de savoir qu'est-ce qui se passerait, quoi, si on n'a plus toute l'aide technologique qui nous entoure. Je ne parle même pas des portables, des ordinateurs, tout ça. Et j'ai essayé d'en faire non pas quelque chose d'effrayant, quelque chose de cataclysmique, justement, quelque chose dont on aurait peur, mais quelque chose plutôt d'heureux, quoi, une fin, mais une fin douce. On est tous amenés à finir, hein, que ce soit individuellement ou collectivement. Donc, imaginez la fin de la Terre comme ça, mais la Terre qui survivrait, moi, c'est une idée qui me plaît, parce que soit on détruit la Terre et on meurt avec, soit on meurt, mais avant que la Terre soit tout à fait détruite, quoi. C'est une idée quand même, hein. Et c'est une idée qui me plaît bien. Alors, comme il faut quand même qu'il y ait des personnages, bien sûr, il reste quelques personnages, quelques survivants, qui sont immunisés et qui permettent de faire avancer l'histoire, l'histoire étant effectivement des petites parcelles comme ça. Il y a la femme qui approche de la ménopause et qui voudrait absolument trouver un mâle pour lui faire un enfant, pour continuer le monde, mais elle trouve qu'il y a des vieillards qui bandent plus. Moi, je m'excuse, c'est dans l'histoire, hein. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais je suis parti d'images, là, encore. Moi, quand on est gosse, on a toujours ces images, soit des images de Tarzan, avec Tarzan au milieu des animaux, au milieu de la jungle, il est ami avec les éléphants, il est ami avec les singes, et puis les images du paradis terrestre qu'on voyait dans les images pieuses, avec le lion, la biche qui se couche dans l'encolure du lion. Et là, c'est plus très réaliste, effectivement, mais tout ça me plaisait bien, c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Je pourrais dire une fin du monde heureuse, quoi, et... Encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les végétaux partent à la conquête des villes, hein, les murs se couvrent de lierre, d'ampélopsis, de lignes vierges, les toits s'effondrent, enfin, les animaux, les lions, comme ça, circulent dans les rues, il y a des crocodiles dans la Seine, enfin, etc. Je me suis aussi basé, parce que ma formation première, c'est les arts plastiques, hein. Je suis quand même peintre et dessinateur avant d'être écrivain. Et j'ai vraiment essayé d'imaginer, de visualiser ça, quoi, comme si c'était un film, comme si j'étais le producteur d'un film à faire, en allant de quartier en quartier, parce que tout ce qui est décrit, aussi bien dans Paris, dans Avignon, et quelques autres villes traversées, la géographie, y compris le nom des rues, etc., c'est très très exact, quoi. Je pense que c'est effectivement mon roman le plus réaliste, et en fait, il est réaliste, parce que si l'humanité, reparlons des volards, s'il y avait une vague vraiment terrible et terrifiante qui nous couchait tous, et bien on arriverait au monde enfin, et ben, je serais le premier écrivain de science-fiction qui a décrit vraiment le futur tel qu'il arrive.
On reste sur les intentions.
Un monde sans lecteur.
Un monde sans lecteur. On aurait plus besoin d'art pour faire du papier, du coup. Parlons du propos politique, on a commencé à en parler avec Alain. Est-ce que dans la création de ces univers-là, de ces écologies, il y a un propos, une réaction par rapport à notre monde?
Il y a une réaction à la fois de révolte et de panique, quoi. Je veux dire, quand on pense qu'on est en train de détruire le monde pour gagner un peu plus de fric, quand on pense à tout ce qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas, parce qu'on est des court-termistes, pour employer un terme qu'on emploie maintenant, au lieu des long-termistes. Moi ça me révolte, et alors que faire, j'en sais rien, une révolution violente peut-être, hein, en pendant tous les chefs d'entreprise par leur trip peut-être, je ne sais pas si on y arriverait, peut-être qu'il faudrait, peut-être que c'est la solution, mais on ne voit pas avancer les choses, on connaît la marche de l'écosystème, hein, de l'anthroposphère, puisqu'on est arrivé à l'anthroposphère, hein, c'est-à-dire la sixième mère, qui, où c'est l'homme qui a la main mise sur tout le reste, sur toutes les autres créatures et tous les autres règnes. Et on ne fait rien, quoi. On peut te citer des tas d'exemples, le nucléaire par exemple, on parle. Est-ce qu'on va faire le Fessenheim, qui est une centrale parmi les 28 qui existent en France? On hésite, on ne sait pas. Réduction des gaz à effet de serre, on se couche devant les camionneurs. Vous voyez, on peut prendre n'importe quel micro-problème, micro-problème, ça fait des gros problèmes, sans arriver à les résoudre, parce que, encore une fois, on est des court-termistes, pas nous autres qui sommes à cette table, et pas vous dans la salle, j'espère mieux. Mais c'est un peu désespérant. Et moi, je suis assez désespéré, tout en rigolant bien, parce que c'est tellement absurde, quoi, le monde dans lequel on vit, que finalement, si on ne peut pas réagir contre, on peut au moins en rire, l'humour étant la politesse du désespoir, comme chacun sait.
Est-ce qu'il y a besoin d'imaginer des univers forcément noirs, sans écologie, pour mieux dénoncer? Je pense à La Horde, mais je pense évidemment au travail du Furet, ou parfois à certains de tes romans, peut-être un petit peu moins, mais des contextes plus urbains où finalement la nature n'a pas sa place.
Je veux dire, la nature, on vit par la nature, on a besoin d'eau, on a besoin d'air, et les planètes entièrement couvertes de villes, elles ne peuvent pas exister. Je veux dire, les villes planètes de la guerre des étoiles, ça ne pourrait pas exister. Les menaces urbaines de Silver Bear, où tu as des tours de 3 km qui ont 800 000 personnes, ils prennent où l'énergie? Je ne sais pas, la Terre a 34 milliards d'habitants, tu crois, il prend où l'énergie? Il ne le dit pas, ça, Silver Bear. Donc ça ne peut pas exister. On ne peut exister qu'en vivant dans la nature d'où l'on vient et par la nature qui nous nourrit et qu'on doit respecter. C'est pour ça que moi, je dis souvent que la science-fiction, elle atteint très vite ses limites. Hein. C'est toi qui parlais de table. Une table, c'est une table. Hein. Elle est ronde ou carrée, elle a 3 pieds ou 4, mais c'est une table quand même. On pose des objets dessus, il n'y a pas de table topologique comme ça. Et créer des créatures qui seraient très loin de l'humain, ça ne marche pas. Van Vogt, effectivement, de la cité a essayé, mais on n'y croit pas quand même. Une créature, pour qu'elle fabrique des objets, il faut qu'elle ait des mains, il faut qu'elle ait des doigts. Un dauphin, aussi intelligent qu'il soit, il ne fabriquera rien. Un poulpe, c'est déjà plus difficile. Un éléphant avec sa tronche, c'est déjà plus difficile. Donc forcément, si on veut créer une autre humanité, elle nous ressemblera forcément. Elle aura 4 membres, elle peut en avoir 6. Mais enfin, en principe, si nous, les hommes, on a été fabriqués par une évolution de plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions d'années comme ça, c'est que c'était la meilleure solution. On a 2 jambes pour se déplacer, on a 2 bras, on a des doigts pour fabriquer des objets. Je veux dire, c'est pour ça que je dis que pour moi, et si je reviens souvent en arrière, mais si je fais un pas de côté pour essayer d'avoir la meilleure solution vivable écologique, si je ne me transporte pas dans des planètes extraordinaires, c'est que ces planètes extraordinaires, je ne t'accuse pas, mon cher Laurent, elles n'existent pas, quoi. Elles ne peuvent pas exister, je ne crois pas, en tout cas. C'est mon avis, hein. Laurent. C'est peut-être un constat d'impuissance aussi.
Non, mais c'est vrai. Alors, c'est vrai que le space opéra, il y a une espèce de nostalgie d'une époque qui était innocente, enfin qui a été terrible au niveau écologique.
On ne savait pas ce que c'était, quoi.
D'autres, oui, voilà, parce qu'on a exterminé des espèces sans le savoir et sans avoir les outils intellectuels qu'on a maintenant pour les identifier et imaginer même qu'elles aient pu exister, puisque là on est dans la justement, tu parlais de l'anthropocène, un des enjeux modernes de la zoologie et de la botanique, c'est de répertorier les espèces avant qu'elles aient disparu, en fait. Mais il y a une époque où on n'avait pas cette sensation de finitude du monde, que le monde est que la Terre est un vaisseau spatial clos et fini, que les ressources sont finies et que voilà, et d'imaginer comme ça des grands empires ou une myriade de mondes colonisés, c'est un rêve régressif d'une époque où on pouvait justement imaginer l'avenir était ouvert et puis les ressources naturelles étaient infinies. C'était dans le space opéra, il y a cette notion-là, c'est évident. Maintenant, le space opéra moderne, il a un côté, il a un aspect métaphorique, c'est-à-dire qu'il va mettre en scène les relations, donc sur d'autres planètes, de l'humanité et de la nature, même si cette nature, elle est extraterrestre, elle vient pas d'ici. Mais en tout cas, les relations de l'homme par rapport à la nature, elles sont. On peut essayer de trouver des constantes ou de voir comment ça peut évoluer, justement.
Oui, mais moi je crois qu'on savait toujours, mais on savait, mais on ne voulait pas voir. Quoi. Il suffisait de ça. N'importe qui peut s'adresser à un scientifique, n'importe lequel, mais si. Pas seulement aujourd'hui, mais au début du siècle, puisque le chimiste suédois, je crois que c'est son nom, Arrhenius, je crois. Dès la fin du 19e siècle, a compris que l'excès de gaz à effet de serre, à l'époque c'était essentiellement la combustion du bois, provoquerait un effet de serre. Quoi. Donc il y a plus d'un siècle qu'on le sait, ça. On ne veut pas le voir, on ne veut pas le savoir. C'est comme le singe qui bouche les oreilles, là, voilà, on est comme ça. On a une tribu de singes qui nous bouchons les oreilles. Et voilà, quoi. Je ne veux pas vous pousser au suicide.
Mais si vous êtes chef d'entreprise, vous avez compris qu'il y a des possibilités. Alain,
on parle de réduire de 40% les gaz à effet de serre en Europe. Hein. En 2050. 2050, c'est loin. Et en plus, l'Europe produit 11% des gaz à effet de serre. Il n'y a qu'à voir la proportion. Donc, c'est un peu désespérant quand même. J'arrête.
Mais c'est vrai que la SF, elle met aussi en scène la puissance humaine. Elle met en scène cette anthropocène dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que la notion même de terraformation, qu'on trouve, c'est une métaphore de ce qu'on fait tout le temps. En fait, la première terraformation qu'on a faite, on l'a faite sur Terre.
Bien sûr. Et on la fera pas ailleurs.
Non, bien sûr, mais ça, c'est peu importe. On est dans des objets imaginaires. J'ai jamais cru une seconde que les planètes que je créais avaient un quelconque ancrage réaliste.
Sauf qu'on ne sait pas. Ça peut exister quelque part dans l'univers.
Le tout, c'est que ce soit vraisemblable, et c'est pour ça que la fonction importe plus que la substance.
Alain, dans la zone du dehors. Est-ce que la zone du dehors aurait pu se passer dans des champs, des verdures? L'absence d'écologie est-elle un propos du roman?
Oui, non, mais bien sûr. Mais je crois que c'est ça, pour le coup, c'est vraiment un grand cliché de la science-fiction. Et on a été, je pense, les auteurs de science-fiction, les premiers à poser l'anthropocène, c'est-à-dire à poser le fait d'un monde entièrement humanisé, quoi, et trop humain, et sur lequel on a épuisé toutes les ressources. Et pour moi, la zone dehors, c'était évident que, même dans le titre, que je crée un technococon extrêmement urbanisé et extrêmement pollué aussi, et qu'autour de ce technococon qui est posé comme ça sur un satellite de Saturne, il y a cette fameuse zone du dehors qui représente, qui métaphorise l'altérité dans le livre, et la capacité à se composer avec quelque chose de libre, avec quelque chose de neuf, et avec des forces qui ne sont pas des forces humaines. Quoi. Et la SF, moi je trouve qu'elle est très utile dans ce sens-là. Tu vois, on parlait du capitalisme et évidemment de la façon dont il épuise les ressources de la planète, mais moi je crois qu'il y a une deuxième dimension dans le massacre, enfin dans l'écocide, dans le massacre écologique qu'on a, c'est le rapport à l'altérité, quoi. C'est-à-dire que c'est le rapport à ce qui n'est pas nous, quoi. C'est-à-dire ce qui n'est pas humain. Et ce rapport donc avec les animaux, avec les végétaux, avec ces immenses surfaces qui avant étaient vierges, ce rapport on l'a totalement perdu. Le taux d'urbanisation il doit être à 90% aujourd'hui dans le monde, et donc on est dans un monde qui a été parfaitement adapté à ce qu'on est, quoi. Un des passages que je préfère de la zone dehors, c'est ça, c'est quand je décris le fait qu'on a toujours des poignées au bout des mains, que les portes, elles ont la carrure adéquate à ce qu'on est, qu'on a les hauteurs de plafond qui correspondent à ce qu'est l'être humain, qu'on a des sols toujours plats, des angles toujours carrés, qu'on a des tapis roulants, qu'on a des voitures où on peut s'asseoir dedans. Tout est créé pour l'humain, par l'humain, et uniquement à destination de l'humain. Et on conjure tout ce qui n'est pas humain autour. Et moi, je défends cette théorie toute simple que la dignité et la noblesse de l'humain, elle a été maximale quand on était encore confronté à l'inhumain. Et tant qu'on a été confronté à l'inhumain, c'est-à-dire au climat, aux difficultés du climat, au fait d'aller chercher de l'eau, au fait de construire nous-mêmes les bâtiments, au fait d'inventer les technologies qu'il nous fallait pour survivre, etc., de lutter contre les maladies, etc., toute cette période qui a duré relativement longtemps, où on s'est construit dans l'altérité et qu'on a réussi à trouver des solutions pour survivre, je pense que c'était la période où l'être humain a été le plus noble, le plus beau. Et aujourd'hui, on a passé un cap, pour moi. C'est vraiment une courbe de Gauss. On a passé, et je le situe comme ça. Alors, je suis né en 69, donc c'est peut-être pour ça. Mais je situe au début des années 70, on passe un cap comme ça et on rentre dans un technococon ou un oignon technologique, comme je dis souvent, avec plein plein de couches. Et dans cet oignon-là, notre rapport à ce qui est hors humain, avec l'hors humain, est inexistant. Et c'est ça qui est grave. Et du coup, on a inventé ce terme, mais moi, je trouve que c'est totalement bien. On parle d'environnement. Tu vois, à partir du moment où on dit il y a l'homme et il y a l'environnement, on n'a déjà rien compris parce qu'on considère qu'on est le centre du monde et que tout le reste, c'est l'environnement autour. Il faut préserver l'environnement, il faut le protéger, etc. On a un ministère de l'environnement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, on est tellement anthropocentré, on est tellement humano-centré comme ça, que tout ce qui n'est pas nous est considéré comme un vague truc autour de nous, quoi, tu vois. Et tant qu'on n'arrive pas à se resituer à l'intérieur de dire, ben non, on est des petites particules, comme le font beaucoup mieux les Asiatiques que nous, quoi. On est des petites particules dans un ensemble qui est bien plus vaste que nous, et essayons de se relier avec ces autres particules et d'être en harmonie le plus fort possible avec ça.
Alors, je vais quand même, si tu me permets, être un peu en contradiction avec toi, parce que quand même, dans ton discours, c'est quand même, c'était mieux avant. C'est ce que j'entends. Or, si on
étudie... Ça a été mieux à un moment donné.
Non, c'est faux. Alors là, c'est faux. Si on étudie toutes les civilisations successives, on se rend compte que l'homme, avec les moyens qu'ils avaient, a détruit son environnement beaucoup plus qu'on le détruit aujourd'hui. Je prends l'exemple des Romains, par exemple. Les Romains ont annihilé toute la faune du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Il n'y a plus un animal. Il y a des chameaux, bien sûr, mais il n'y a plus de tigre, il n'y a plus de lion, il n'y a plus de crocodile. Les Romains amenaient par bateau entier, pour les jeux du cirque, des animaux. Sur ces animaux qu'ils amenaient, il y avait 1% qui survivaient quand ils arrivaient dans les arènes de Rome. 99% crevaient dans les bateaux. Donc, s'il n'y a plus d'animaux sauvages en Afrique du Nord, c'est à cause des Romains. On peut multiplier les exemples comme ça. L'île de Pâques, par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont fait, l'île de Pâques? C'était une île, quand les premiers colons, les premiers navigateurs, c'était des Hollandais, je crois, sont arrivés, elle était déjà en très mauvais état. Mais on a compris pourquoi. Avant, c'était une île très florissante. L'île de Pâques, il y avait des arbres, il y avait plein d'arbres. Et puis, avec plusieurs tribus qui ont commencé à se battre. Et chacun voulant gagner, ils ont fait quoi? Ces gens-là, ils se sont adressés à leur dieu. Mon dieu, donnez-nous le pouvoir. Et pour plaire à leur dieu, ils ont fabriqué les fameuses statues de l'île de Pâques. Et comment elles sont faites, ces statues de l'île de Pâques? Elles sont creusées dans des falaises, et après elles sont couchées sur des morceaux de bois qui roulent comme ça pour être amenées où il fallait. Et pour amener ces statues au bord de la mer, là où il fallait qu'elles soient, pour plaire à leur dieu, la totalité de la végétation de l'île de Pâques a été anéantie en une ou deux générations. Et l'île de Pâques, je crois qu'il y avait 20 000 habitants, on a calculé ça. Et quand les premiers colons hollandais sont arrivés, il n'y en avait plus que quelques centaines. Donc voilà, l'homme a détruit les bons sauvages. Ils ont complètement détruit.
Ouais, mais ça c'est des exemples. Non, mais bien sûr, on peut trouver plein d'exemples.
Et encore un dernier truc, la faune du continent américain, la faune de l'Amérique du Nord. Il y avait des animaux extraordinaires, des tatous géants, des ours géants, des bêtes comme ça, une population mammifère extraordinaire. Et en 2000 ans, elle a été complètement anéantie dès lors que le détroit de Bering s'est refermé, les populations asiatiques sont passées, ont descendu dans l'Amérique du Nord, et ont fait les Indiens tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et en 2000 ans, il y avait les tigres aux dents de sabre, hein, les machédores russes. Ils ont exterminé des mammouths, il y en avait aussi. Ils ont exterminé en 2000 ans toute cette faune extraordinaire. Bon. Alors, bravo à nos ancêtres.
Non, mais pour moi, on ne peut pas dire ça aussi simplement, parce qu'effectivement, il y a ces exemples-là. Mais si tu veux, si tu prends la France au XVIIIe siècle, avant la Révolution industrielle, par exemple, c'est une structure de petits villages, et on la voit, ce maillage, il existe encore aujourd'hui. La voiture n'existe pas, on n'a pas tout quadrillé avec les autoroutes, les villes n'existent pas au sens urbain qu'il y a aujourd'hui. Et le rapport à la nature, il est quotidien pour ces populations-là. Donc, c'est beaucoup plus évident pour ces personnes-là, à cette époque-là, qu'on fait partie d'un écosystème, tu vois. C'est évident. Après, on a totalement perdu ça. Les générations qui naissent aujourd'hui en ville, elles ont totalement perdu. Même moi, je vois des fois des livres pour enfants où on parle effectivement du blaireau, du furet, de l'écureuil, etc. On ne les voit plus. Voilà, c'est tout. Donc, oui, le monde s'est hyper anthropisé, voilà. Ce qui n'était pas encore le cas avant. Donc il y a eu une période où le rapport à l'extériorité et à l'altérité inhumaine était plus fort. Après, il y a eu tous les massacres que tu dis, bien sûr. Hein, mais on avait ce lien beaucoup plus naturellement, quoi, je pense. Voilà. Ouais. Après, on peut toujours rêver du passé. Hein, mais...
Il nous reste 5-10 minutes de débat. J'ai quand même une question à vous qui êtes des créatifs. Il y a un plaisir à créer des créatures qui ne soient pas celles qu'on connaît, extraplanétaires. Il y a un plaisir à imaginer une faune et une flore au-delà du propos qu'on a entendu.
Oh bah, c'est évident. Hein. C'est, ouais. Il y a un plaisir démiurgique évident. Ah, quoi. Ouais.
C'est énorme.
Qui est un plaisir qui n'est pas forcément de nature romanesque. C'est extra-romanesque. C'est de la spéculation. On peut faire ça même sans écrire. Moi, je l'ai fait pour un jeu vidéo où j'ai imaginé On m'a demandé de faire une dizaine d'écosystèmes avec des espèces gameplay. Où j'imaginais des sortes de créatures qui étaient comme des papiers tumouches à l'envers, des sortes de formes de vie enterrées qui laissaient comme ça, qui mettaient dans le vent des sortes de langues transparentes qui chopaient des petits oiseaux et tout. Donc pour fabriquer des sortes de barrages, donc avec une exigence de gameplay. Ou des arbres à feu, voilà, ce genre de choses. Donc ouais, c'est vraiment jouissif de créer comme ça des bestioles qui n'existent pas.
Même question pour vous deux. Alain,
moi j'adore, ouais, pour moi c'est un des plus grands plaisirs. C'est surtout, des fois tu pars du nom simplement, ça explose comme ça. Et après c'est donner une crédibilité aux choses. Le vrai plaisir il est là pour moi, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu donnes une couleur, tu donnes une lumière, tu donnes une chair, tu donnes une forme, quoi, tu donnes une odeur, tu donnes un son aux choses. Et tout d'un coup, tu sens que tu passes un cap de réalisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même pour toi, ça reste flou au début, etc. C'est juste un jeu. Et tout d'un coup, à force de travailler, notamment moi, je travaille par unité de paragraphe, ça, force de travailler paragraphe, tout d'un coup, la bête ou la chose ou l'architecture parfois, hein, parfois c'est juste un village, par exemple. Tout d'un coup, tu le sens monter et tu sens qu'il est là. Et ça, pour moi, c'est le plus grand plaisir d'écrire, en tout cas d'écrire la science-fiction ou les fantastiques. C'est ce moment où tu passes la barrière du réel. Et tu sens et tu sais que pour le lecteur aussi, ça va le faire. Quoi, tu vois, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer et que tu viens de créer quelque chose. Tu ne sais pas où ça existe dans un espace assez hallucinant. Mais tu sais que la personne qui rentrera dans cette page et qui va le lire, ça va monter aussi pour elle et exister. Ça, c'est génial. Ouais.
Et puis, c'est porteur d'idées qui ne sont pas forcément... Par exemple, j'avais imaginé des crabes jardins, c'est des sortes d'énormes crabes, enfin des bestioles qui ressemblent à des crabes, et qui se développent sous terre d'abord, sous forme larvaire, et puis quand elles sont suffisamment grandes, donc elles font quelque chose comme 30 mètres de diamètre, elles s'arrachent du sol, et en fait elles décollent toute la terre au-dessus, en fait, avec des arbres, avec des rochers. Et elles se mettent à faire une grande transhumance à travers un désert de pierre, faire un désert quasiment comme une table. Et il y a des tribus qui vivent, qui embarquent, et donc ça forme comme des oasis portatives. Et donc là, cette notion d'oasis portative, ouais, c'est pas quelque chose qui est c'est pas lié au vivant, mais voilà. Comment ça peut générer comme ça 3-4 chapitres d'aventure.
Pareil, Jean-Pierre, sur ce plaisir de la création.
Moi, j'ai peur d'être un petit peu retenu par la barrière du réel, quand même. Hein. Parfois, j'ai fait comme Laurent, je crois que c'est dans le cap sur Gandahar, ils abordent sur une île, évidemment, c'est la carapace d'une tortue géante qui rentre sous l'eau. Mais moi, je suis tellement attaché aux animaux réels, quoi qu'ils disparaissent peu à peu, que j'ai tendance à m'en tenir là. Quoi. Et ça, c'est toute la base du monde enfin. On connaît l'expression pourquoi on a des chats, c'est parce qu'on aimerait caresser un tigre. Moi, j'aimerais caresser un tigre, j'aimerais avoir un éléphant dans mon jardin, un hippopotame dans mon bassin. Donc voilà, et ces animaux réels dont je ressens physiquement vraiment la disparition programmée, hein, comme les ours blancs par exemple, quand ils n'auront plus de banquise où s'accrocher, je ne sais pas ce qu'ils viendront, ils n'auront pas le temps de s'adapter parce que le problème de la disparition des espèces, c'est qu'elle va trop vite. Toute espèce peut s'adapter, toute l'écologie terrestre est faite de ça, l'adaptation des espèces. Sauf que là, ça va si vite qu'elles n'ont plus le temps de s'adapter. Les insectes peuvent s'adapter, mais pas les créatures supérieures. Donc, mon combat, si je peux dire, mon combat littéraire et mon plaisir littéraire de créer, c'est effectivement de pouvoir caresser le tigre et d'avoir voilà, une le girafe qui broute dans les arbres de mon jardin.
Oui, je me souviens de scènes aux Tuileries dans le monde enfin avec c'était un tigre.
Oui, voilà. Ouais. Oui, oui, ben, oui, c'est le plaisir de voir dans Paris livré aux bêtes, mais avec quand même un observateur, le dernier homme, qui serait moi, puisque c'est moi qui ai pris le bouquin.
une dernière question et puis on passe aux questions du public. Parce que je sais que Laurent, pendant certaines périodes, tu t'adressais à certains scientifiques pour jauger la crédibilité de ton univers. C'est toujours le cas ?
Oui.
Et comment ça se passait,
alors, ce dialogue ? C'est toujours le cas, mais pour le coup, c'est plus des astrophysiciens. Pour le côté vivant, c'est plutôt des généticiens. Parce que c'est intéressant. Enfin, encore une fois, je pense que la science-fiction, elle est née avec l'écologie. Enfin, l'écologie en tant que science, elle est née vraiment au début du XXe. Donc et elle a évolué en même temps. En fait, c'est assez marrant. Les concepts sont diffusés dans la SF. Les premiers écologistes au sens scientifique. On écrit des nouvelles de science-fiction. Une des premières nouvelles de science-fiction, c'était un homme autotrophe, décrit par, je sais plus, je crois que c'était Vernadsky, qui décrivait un homme autotrophe, c'est-à-dire qui étendait des sortes de grands voiles et il se nourrissait de lumière. Donc, il y a énormément de passerelles entre la science et la science-fiction. Alors, c'est vrai que j'aime bien les grands artefacts spatiaux, donc à ce niveau-là, mais qui permet aussi de créer des conditions écologiques particulières. Dans une porte sur les Terres, c'est une sorte de tube qui relie deux planètes qui sont à un point de Lagrange l'une par rapport à l'autre. Donc, elles sont à 100 000 km l'une de l'autre seulement, et sur une orbite stable. Et il y a une sorte de tube, comme un tube à essai, vous voyez, et qui relie les deux atmosphères. Et en fait, il y a une sorte de plante qui vit. Une plante femelle qui vit sur une planète et la plante mâle vit sur la deuxième. Et à travers ce tube, il y a une sorte de migration de pollen, une sorte de pollen animal, une sorte de pollen volant qui passe à travers ce tube. Et j'avais imaginé un peuple qui vit sur les parois en diamant de cette espèce de tube gigantesque, quoi. Et qui écrème comme ça, qui a des sortes de grands filtres, et qui écrème, qui prélève sa petite part de pollen tout en vivant collé aux parois et en plus en apesanteur, hein, puisque ils sont pas soumis à la gravité. Donc et là pour le coup j'avais fait appel à un collègue, hein, puisque c'était Jean-Louis Trudel qui est astrophysicien mais aussi auteur de SF.
Pareil pour Jean-Pierre et Alain, là par de la documentation du dialogue avec les scientifiques éventuellement ou pas.
Bah, c'est une chance quand on croise, enfin moi j'essaye notamment le festival on croise pas les scientifiques. Chaque fois, si je peux certifier quelque chose, je le fais. Puis mon rêve, c'est d'avoir une petite équipe. Quand tu bâtis un univers, d'avoir une petite équipe, tu me dis peut-être un jour, ça arrivera.
Être un peu chef d'entreprise, quoi.
D'avoir des scientifiques, des sociologues, des philosophes. Enfin, bon, je l'ai fait un tout petit peu sur le jeu vidéo Remember Me. Je l'ai fait un tout petit peu quand on a repris la Horde en film d'animation. Là, j'essaye de le faire un petit peu sur les furtifs, où c'est des êtres qui sont faits de son comme ça. Et donc, je rencontre des experts sonores. Mais j'aimerais le faire plus. Parce que On avale beaucoup de documentation internet et livresque, mais quand quelqu'un vous prémâche le savoir et en plus est suffisamment inventif pour s'adapter à ce que vous voulez faire et pour vous répondre tout de suite, c'est le pied absolu et ça arrive pas si souvent.
Et puis un dialogue, ça n'a rien à voir avec de l'ingurgitation de connaissances. Ça m'était arrivé sur Oman où je cherchais un système imaginez donc cette coquille. Le problème évidemment, c'est qu'il n'y a pas de nuit possible puisque le soleil est toujours au zénith. Donc, il fallait créer une nuit artificielle. Alors, j'avais un écrivain américain qui a écrit une série de bouquins qui s'appelle L'Anneau Monde, qui est grosso modo une sphère de Dyson réduite à sa bande, à l'élément le plus intéressant, qui est la bande équatoriale. Et lui, il avait imaginé un système très, très astucieux. C'était une sorte de deuxième anneau à l'intérieur qui tourne dans l'autre sens et qui est un petit peu comme un kinétoscope, c'est-à-dire avec une succession de plaques et de vides, et en fait simplement par la simple rotation, ça fait comme ça une série de... Enfin, ça fonctionnait très très bien. Alors, évidemment, en science-fiction, on n'a pas le droit de repomper les idées des confrères.
Si, justement ce qu'on fait tous.
fait sans arrêt ça. Mais...
Donc du coup, je cherchais un système et j'avais imaginé un système de lune, des plein de planètes intérieures, des planétoïdes intérieures, et avec un système de minuit, de quart nuit, etc., par éclipse. Voilà. Et en fait, évidemment, ça ne fonctionnait pas du tout. Parce qu'il fallait qu'il y avait des problèmes de marée gravifique, pour que ce soit viable, il fallait que les planétoïdes soient très très proches de la surface, et en plus ça garantissait pas du tout la longueur de la nuit. Enfin bref, c'était foireux. Et j'ai discuté avec Jacques Pol, qui est un astrophysicien, qui a découvert le premier trou noir, et on déjeunait, et donc je lui expose ma théorie, et il me dit « Oh là là, mais ça ne fonctionne pas du tout. » Donc on cherche comme ça une voie, puis rien ne vient. Et par contre, il me dit « Ton phénomène, il faut qu'il soit local. Il faut que ce soit quelque chose qui soit juste au-dessus de l'atmosphère. C'est le seul moyen que ça marche, en fait. Quelque chose qui soit plus loin, ça ne va pas fonctionner. » Et en fait, à la fin du repas approche, et je regarde ma montre, et j'avais une montre à quartz, donc à cristaux liquides, et c'est là en fait où ça a fait tilt. C'est phénomène local plus cristaux liquides, donc le principe du de la piézoélectricité, c'est que vous faites passer un courant et les molécules de cristaux liquides se polarisent, donc elles prennent toutes la même direction, et ça devient noir. Et donc je me suis dit, si on fait l'équivalent. Donc pas faire passer de l'électricité, mais quelque chose qui ne soit pas électronique mais photonique, donc une insolation, et ben j'ai mon système. Et donc c'est comme ça que j'ai imaginé le système des cristaux phototropes, c'est un gaz qui se fonctionne comme des cristaux piézoélectriques, sauf que ça fonctionne avec de la lumière, et donc au bout de 12 heures d'insolation, ça se polarise. Pendant 12 heures, ça se décharge et ça redevient transparent. Voilà. Donc chaotique et donc transparent. Bon, ça, j'aurais jamais eu l'idée sans ce dialogue avec Jacques Pol, qui m'a orienté vers la bonne idée. En fait. Donc, c'est une idée commune.
Ça, c'est de la vraie SF.
On arrive un petit peu à la fin de ce dialogue. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Profitez-en. C'est le moment. Oh, allez. Parce qu'après, il y aura la séance de dédicace, mais c'est pas tout à fait pareil. Bonjour. Oui, madame.
Alors, excusez-moi, je sais pas si j'ai compris maintenant, mais à vous entendre, je pensais au rapport entre l'écologie et la science fiction. Je me disais, au final, est-ce que là, on va s'assimiler, quelle est finalement la place de la SF, comment elle peut interroger l'homme, ou comment elle peut interroger l'homme face à l'écosystème, ou si c'est pas l'écosystème, c'est ce dont tu es parti. Et je me disais, je pensais à Hans Jonas, qui a écrit l'humoristique de la peur, et je me disais, est-ce que le rôle de la SF pourrait être proposer ce genre d'alternative, de proposer donc un modèle tels que des heuristiques de la peur ou des mondes complètement déshumanisés, ou trop humanisés, comme par exemple, je pense à la zone du dehors, où il y a une altérité, mais une altérité qu'il faut vraiment aller chercher, ou est-ce qu'on va proposer d'autres mondes où justement il s'agit de paradis perdus ou de d'utopie. Donc voilà. Je vois qu'il y a un grand enseignement et de plus en plus de rapports proches entre ce que disent les scientifiques et les écrivains de science-fiction. Alors, est-ce qu'on va vers un réductionnisme, c'est-à-dire qu'un appauvrissement du texte et justement plus de documentation scientifique, quelque chose qui va venir vraiment du domaine du ultra-scientifique? Et donc, on va faire une trame imaginaire, où est-ce que, justement, il n'y aura pas de réductionnisme, on va essayer d'inventer quelque chose qui sera parallèle, donc une troisième forme, avec toujours un monde qui sera là, un monde autre, alter, mais avec donc des bases scientifiques, donc un mélange des deux, une espèce de, voilà, de monde alter, mais justement dans lequel on pourra retrouver des bases réalisées. Voilà, toujours un ancrage réaliste.
Mais en fait, c'est tout ça à la fois, la science-fiction, c'est pour ça que c'est... Enfin, pour moi, c'est la littérature la plus puissante et la plus libre qu'on ait et la plus précieuse aujourd'hui. Même moi, je le dis sans arrêt, on a toujours un discours assez, assez littérature mineure, etc., sur la science-fiction. Mais moi, je trouve que c'est une littérature majeure pour ça. C'est-à-dire qu'on peut partir, effectivement, extrapoler de l'écologie, je dirais, positive, pionnière, dans des planètes vierges, etc., avec des espèces inventées ou pas, mais en tout cas avec une harmonie de l'homme, ou inventer des mondes où l'homme a disparu, donc une écologie... maximale et réussie, où l'homme arrête de polluer tout. Mais on peut aussi bâtir des mondes totalement hypertrophiés d'un point de vue technologique et urbain, c'est-à-dire des mondes hyper pollués, et ça, la science-fiction l'a fait magnifiquement, quoi, hyper urbain. Donc on est aux deux spectres, hein, complètement. Et entre ces deux pôles-là, tu peux tout faire. Soit tu es hyper informé scientifiquement, tu fais quelque chose d'extrêmement précis, la hard science, soit tu fais plutôt la soft science fiction, c'est-à-dire la science-fiction de sciences humaines, où tu t'interroges plutôt sur les devenirs politiques, sociologiques, etc. On peut tout couvrir, et selon les auteurs, là il y a trois auteurs, mais on en mettrait 10, et vous verriez toutes les nuances possibles autour de ces enjeux-là. Donc oui, pour moi, il y a en tout cas écologie science-fiction, je trouve que le thème est super bien trouvé, parce que quelle littérature traite mieux ce sujet-là que nous, quoi. Enfin, je vois pas, quoi, honnêtement.
Bah, la SF, elle est devenue, au niveau écologique, je trouve qu'elle est devenue de plus en plus réaliste, à mesure que la science devenait de plus en plus spéculative. C'est ça, je trouve qu'il y a une convergence. Il y a une convergence qui fait que souvent on s'adresse à nous pour des débats, pour ce genre de choses aussi.
C'est une question aussi, parce que Jean-Pierre Andrevon est donc aussi critique, donc il a lu beaucoup de choses. Est-ce que tu es d'accord sur cette évolution de la science-fiction?
Il faudrait que je réfléchisse profondément. Il y a autant de science-fiction que d'auteurs, et dans chaque auteur, il y a des tas de science-fiction différentes. Je veux dire, il n'y a pas une unicité de la science-fiction. Bon, on peut faire refaire l'histoire, mais on n'a pas à la faire ici. De Jules Verne, qui n'inventait pas des choses, mais qui simplement dépassait un peu les inventions de son temps. Hein. Le sous-marin existait déjà, par exemple, quand Jules Verne a écrit La Minute sous les mers. Et il était plutôt optimiste, plutôt scientiste à ses débuts, puis il a changé d'avis à la fin, quoi. Je pense qu'il y a une maturation, effectivement, générale, globale, qui court sur des décennies, qui court sur toute l'histoire de la science-fiction. Et puis il y a plus ou moins la même maturation qui se fait chez les auteurs, quoi. Même Arthur Clarke, je vais vous raconter une petite histoire, juste une petite anecdote. Quand même. J'ai eu le plaisir de rencontrer Arthur Clarke quelques années avant sa mort. Et je lui ai dit, mais vous êtes considéré comme un auteur scientiste, comme un auteur positif, un auteur positiviste, et quand même il se passe des choses assez inquiétantes. Et alors, est-ce que vous pensez, Sir Archer, parce qu'on l'appelle Sir Archer, est-ce que vous seriez plus pessimiste qu'il y a 25 ans? Il m'a fait cette réponse que j'adore, mais je suis plus pessimiste qu'il y a 25 mois.
Laurent, tu voulais dire un mot?
Non, non.
Non. Question.
Alors, c'est intéressant par rapport à trois personnalités, peut-être trois postures différentes, avec Jean-Pierre un peu désabusé, quoi, un peu révolté. Ouais, ça, c'est même dans le.
Ah, j'aime bien ça déjà.
Ou Alain qui est plus engagé, politisé, et Laurent que je découvre comme étant plus organisé par rapport à la façon dont il. Embarque des amis pour réfléchir. Oui, ma question rebondit peut-être un petit peu sur ce que vous venez de dire, Jean-Pierre. C'est, est-ce que dans tout ça, il y a, avec toutes ces postures différentes, il y a quand même une place pour une bonne nouvelle pour la planète, puisque c'est dangereux.
Faudrait tous y mettre. C'était manche. Hein. On est mal parti. On me dit toujours. Monsieur Andrevon ou Jean-Pierre, ça dépend si on a un peu de respect ou pas. Pourquoi êtes-vous aussi pessimiste? Je ne suis pas si pessimiste, je suis lucide. Il n'y a qu'à ouvrir ta Wikipédia, sur Wikipédia, tu vas et faites ça. On sait tout aujourd'hui, on sait tout, on sait exactement, tout est chiffré. Il y a encore des gens qui n'y croient pas, quoi. Des gens qui. Bon. Il y a les bras m'en tombent, quoi, des fois.
Moi, je me poserais
ce que je peux dire d'autre. La science-fiction, c'est autre chose. On peut écrire n'importe quoi, effectivement. On peut faire de la fantaisie sans se baser sur l'état de la planète aujourd'hui ou l'état des connaissances aujourd'hui. On peut très bien. On est là pour ça, d'ailleurs. On est là pour faire rêver. On est là pour se faire plaisir, pour faire plaisir aux autres. Mais si on veut être vraiment réaliste, si on veut se baser sur les connaissances scientifiques chiffrées d'aujourd'hui.
Non, on peut imaginer que la technologie puisse nous sortir d'affaire.
Non, mais la technologie, elle fait ce qu'on lui dit de faire. Quoi. C'est toujours la même chose. On a l'impression que la technologie, c'est une force indépendante. La technologie, elle dépend des crédits de recherche, elle dépend des choix politiques qui financent la recherche, des choix capitalistes qui maintenant financent la grande majorité de la recherche. Moi je suis optimiste sur une chose. Je suis optimiste sur le fait que la prise de conscience écologique, elle a été massive depuis 50 ans. Elle est massive. Maintenant, on a l'impression que cette prise de conscience n'engendre pas le freinage ou le ralentissement qu'on espérait. Voilà. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un vrai délai entre la prise de conscience qui est massive. Je pense que tous les gens ici sont conscients qu'on va dans le mur, mais personne ralentit. Voilà. Donc, on ralentit à 10%, à 20%, on fait un tout petit effort sur notre robinet, etc., sur des toutes petites choses qui ne changent pas le mouvement global. Je pense que les gens, moi le premier, on n'a pas compris à quelle vitesse on allait dans le mur. Voilà. Et on est toujours là à regarder le paysage et à se dire « Ouais, c'est beau quand même, regardez, il y a encore des vaches dans les champs. » Et la voiture approche du mur et on a pris conscience qu'on allait dans le mur. Mais j'ai l'impression que dans le cerveau, ça va tout doucement, alors que la dégradation, elle est très très rapide. C'est juste ça. Et à quel moment on va prendre conscience que vraiment ça va très vite et que le mur, on va le toucher très vite. C'est juste un. Enfin, moi, je sens un problème de rythme, quoi.
Ça se résume en une phrase où il faut faire volontairement aujourd'hui ce qu'on sera obligé de faire demain. Voilà, c'est tout. Hein.
Oui, voilà, c'est subir.
Laurent.
L'univers que j'ai développé à travers les planètes opéra, c'est une extension du monde dominé par les intérêts privés d'aujourd'hui. Puisque le monde que je décris est soumis à ce que j'appelle des multimondiales, qui sont simplement des grandes sociétés privées, qui mettent en œuvre une écopolitique. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis perdu dans ma présentation.
On va prendre encore une question.
Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit. À la fin des années 80, j'avais comme modèle Dune, c'est-à-dire une société avec un plan, avec des grandes où les gouvernants savent exactement où ils veulent et quelle perception du monde ils ont et quelle perception du monde ils veulent imposer aux autres. Donc il y a le Bene Gesserit, il y a le Tlélac, etc., qui représentent des façons de concevoir le monde. Un monde dominé par les machines pour le Tlélax, et dans ce visage c'est un monde dominé par la génétique et les modifications corporelles, enfin où l'humain devient totalement plastique. Le Bene Gesserit qui est dans une vision plus spirituelle, mais avec un guide quand même, etc. Moi, ce que j'ai vu dans les années 80, c'est l'effondrement des blocs idéologiques remplacé par un grand chaos. Et pour moi, quand j'ai commencé à concevoir mes différents mondes, j'imaginais pas justement un monde organisé avec des grands penseurs à la tête de ce monde-là, mais plutôt des petits intérêts mesquins privés, tout à fait capables, pour le coup, comme on est dans un monde de space opéra, tout à fait capables de mener des biosphères à la ruine totale pour gagner un petit peu plus. Donc, l'univers tel qu'il apparaît dans la quarantaine de space opéra que j'ai fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un monde. Alors, pour le coup, j'ai quelque chose que nous, on n'a pas dans notre réalité, c'est-à-dire une sorte d'accélérateur gigantesque qui est les portes de vent, qui sont des artefacts dont l'humanité a hérité et qui lui permet d'aller dans les étoiles sans avoir à se donner la peine de le faire, finalement. Donc, il met les étoiles à portée de la main, presque littéralement. Et donc l'homme se retrouve à nouveau avec des territoires vierges à exploiter. Voilà, c'est ça le monde que je décris, mais qui est encore valable aujourd'hui. Après tout, il y a des tas de verrous juridiques qui sont en train de sauter en Antarctique. On va pouvoir effectivement, on commence déjà à les Coréens, les Chinois commencent déjà à prospecter.
On va passer à la question.
J'avais deux questions pour les trois auteurs.
La première, plutôt qu'une heuristique de la peur, comme le disait Madame, qui peut être paralysant, créer des effondrements personnels. Est-ce qu'on pourrait, j'ai pu comprendre que chez Jean-Pierre Andrevon, j'ai pu entendre des relents de décroissance chez Jean-Pierre Andrevon. Est-ce qu'on ne pouvait pas plutôt activer le levier le plus puissant au monde, qui est le levier du désir, comme l'a bien compris Freud au début du XXe siècle? Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt, est-ce que vous ne pourriez pas, vous trois, imaginer des utopies décroissantes écologiques, repenser par exemple la question de la ville avec une telle limite de la ville? On sait qu'au-delà de 60 000 habitants, par exemple, la notion de démocratie s'effondre de l'intérieur. Comment est-ce qu'on pourrait repenser une société avec un partage du travail qui sont autour d'idées bac écologiques, mais des idées également politiquement? Ça, c'était ma première question. D'accord, plutôt qu'une réussite de la peur, pourquoi imaginer des utopies de science-fiction décroissante? Deuxième question, plus personnelle, comment est-ce que vous créez, je crois que Jean-Pierre Andrevon a parlé du rôle de ses rêves, est-ce que vous rentrez en transe, est-ce que vous méditez, est-ce que vous prenez des substances, est-ce que vous...
Je crois que tu manges des chats, hein, c'est ça,
Jean-Pierre? Est-ce que vous faites du mentalisme? Voilà, je suis très curieuse de savoir dans quel état vous vous mettez
Okay, deux questions, on a une dizaine.
Moi je vais répondre à la première parce que je suis alors là parfaitement d'accord et vraiment 100% avec toi. La science-fiction a beaucoup travaillé sur, c'est très prétentieux, heuristique de la peur, tout ça. Non, moi je crois qu'on doit susciter le désir. Voilà, je crois que l'écriture, c'est Deleuze qui disait ça, l'écriture est une lettre d'amour adressée au lecteur, et cette lettre d'amour doit lui donner envie d'être vivant, d'avancer, de faire des choses qui sont belles, d'avoir une vie intense, riche, féconde. Et pour moi, en tout cas, je me sens en responsabilité de porter ces affects-là vers le lecteur. Donc, clairement, quand on a des sujets, ben là, on est sur l'écologie, par exemple, il est évident que pour moi, mettre en récit, mettre en scène une résistance à cette espèce de pollution indéfinie technologique qu'on est en train de subir, c'est fondamental. Et pas seulement une résistance, il n'y a pas seulement s'arc-bouter sur un phénomène qu'on n'arriverait pas à contrer, que ça, c'est on reste prisonnier du... Mais évidemment, créer des alternatives et montrer ces alternatives en train de fonctionner. Bon, c'est ce que j'ai fait à la fin de La Zone du Dehors et c'est ce que j'ai envie de faire encore plus dans mon prochain roman Les Furtifs, c'est à vraiment développer. Et justement, au niveau politique, moi, je suis convaincu aussi de plus en plus qu'il y a des problèmes de seuil, il y a des problèmes de taille. À partir d'un certain nombre d'habitants, à partir d'un certain nombre de gens dans une communauté, la démocratie, c'est une illusion. Ça ne peut pas fonctionner. Et moi, je n'irai pas jusqu'à 60 000, j'irai jusqu'à 500 personnes. On sait qu'au-delà de 500 personnes, ça commence à être n'importe quoi. Il y a des gens qui imposent des choses qui sont inadmissibles et on peut pas travailler en démocratie au-delà de 500 pour moi, quoi. Donc il faut mieux travailler sur ces... Donc évidemment, et moi je travaille beaucoup là pour le coup avec je lis des livres sur les utopies, je lis des livres sur des choses qui ont marché, voilà, qui ont fonctionné, des communautés qui ont fonctionné, anciennes ou contemporaines, des actions engagées qui fonctionnent et j'essaye de les importer dans le livre. C'est ça que j'appelle la science-fiction de sciences humaines, c'est-à-dire que tu utilises des travaux sociologiques qui sont magnifiques, qui te montrent ce qui a été fait, par exemple en France. J'ai un livre magnifique sur les utopies réalisées en France. Et voilà, dans l'éducation, dans la façon de fonctionner, dans l'écologie, etc. Et montrer ça, le mettre en scène. Et ça, j'ai envie de le faire beaucoup plus parce que c'est vrai qu'on se régale à faire de l'anti-utopie, on se régale à dénoncer les forces obscures qui nous aliènent. Mais je trouve ça plus intéressant d'appuyer maintenant sur le désir. Et on le fait vraiment trop peu. Voilà. Et c'est cette phrase de Foucault que je cite souvent et beaucoup, qui dit dès 75, il faut rendre la révolution à nouveau désirable. Il dit le problème, c'est qu'il faut à nouveau susciter le désir de révolution, on l'a complètement perdu. Et encore plus simplement, le désir d'alternative, il faut le maintenir vivant. Et ça, c'est notre rôle. Et moi, je trouve qu'on a une responsabilité énorme là-dessus, parce qu'on est ceux qui sont capables de mettre en récit ça. Voilà. Et on crée quelque chose qui est fabuleux, parce qu'on a beaucoup de textes argumentatifs. Pourquoi ça ne marche pas aussi, l'écologie? Et pourquoi la prise de conscience ne suffit pas? Il y a une raison, c'est que c'est des textes argumentatifs. Voilà. On a des magnifiques thèses, on a des magnifiques articles de journaux, on a des magnifiques travaux scientifiques qui nous montrent à quel point ça, on va dans le mur, mais ça ne touche pas réellement les gens parce qu'ils n'ont pas cette ressource que nous, on a, que l'écrivain a, qui est qu'on peut s'identifier à des personnages. Voilà. Et ça, la faculté de s'identifier à des personnages, de faire passer des affects, des émotions, de mettre en scène les choses et donc de susciter un désir, un texte argumentatif ne suscite pas un désir, il s'adresse à la raison, quoi. Et nous, on a des textes émotionnels, et cette force-là, moi, en tout cas, c'est quelque chose dont je suis très conscient, et je trouve qu'on a une responsabilité très grande là-dessus, c'est qu'on peut, mettre en scène ça.
Mais on l'appuie dans quelle substance? C'était la deuxième question.
Oui, alors
la question de l'inspiration,
etc. Non, mais c'est beaucoup plus simple que les gens croient. Enfin, c'est marrant, on croit toujours que les gens qu'on fait la méditation, qu'on se drogue, qu'on boit, etc. Moi, j'ai jamais écrit. Chaque fois que j'essaie d'écrire sous alcool, par exemple, machin, ça ne fonctionne pas. Enfin, en tout cas, je fais de la merde, je relis, c'est de la merde. Bon, voilà. Non, mais enfin, bon, je sais pas. Moi, une des pistes, en tout cas, une des choses qui fonctionne et très clairement, c'est l'état de somnolence. Ça, c'est très clair. C'est l'état au moment où tu t'endors, ou l'état au moment où tu te réveilles, ou l'état en entrée ou sortie de sieste. Cet état-là où les ondes cérébrales sont beaucoup plus souples, et tout d'un coup, tu as l'impression que ton cerveau s'ouvre et qu'il se passe quelque chose, et tu connectes, c'est comme si les neurones se connectaient sur des zones très très espacées dans ta tête, et il se passe quelque chose. Mais pour que ça marche, il faut que tu sois en phase de création, que tu sois très concentré sur ton sujet, que tu sois très immergé. Et là, effectivement, si tout d'un coup tu relâches le cerveau sur ces zones de somnolence, il se passe quelque chose.
Et c'est du mentalisme.
Voilà. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est du mentalisme. Alors voilà. D'accord. Mais ça, c'est clair que ça fonctionne.
Moi, je l'ai fait sur un bouquin. Ou quasiment en écriture automatique, c'était Les Chasseurs de Sèvres. Et où j'ai écrit de nuit, en fait. C'est un bouquin que j'ai écrit de nuit. Et puis ma copine m'a dit, ben voilà, maintenant, tu choisis. Et puis, donc, j'ai choisi, et mes bouquins sont devenus chiants, du coup. Mais c'était une expérience intéressante. Parce que c'est un bouquin que j'ai pas senti...
J'ai fait un bon livre.
Que j'ai pas senti passer. C'est un bouquin qui est né quasiment tout seul.
Jean-Pierre, sur l'inspiration et l'état d'inspiration.
Moi, je me rapporte à cette seule phrase de Picasso qui dit « Le génie, c'est du travail, du travail et du travail. » Il faut se mettre à bosser. Je ne me compare pas à Picasso, pas du tout. Mais il faut se mettre à bosser, c'est tout. L'écriture, c'est un travail qui demande de l'effort, qui n'est pas pénible, hein, pas du tout. Les écrivains qui disent « Je me déchire, je me mets en danger. » J'adore cette expression. Non, je me mets en danger. Non, on écrit, on commence le matin. Et il y a plein de questions, on ne va pas parler pendant une heure, mais je veux dire, ce qui nous freine, c'est qu'on est des humains, c'est tout, avec nos désirs, avec nos faiblesses. Je ne veux pas citer George Bush, mais George Bush, il a dit, le mode de vie américain n'est pas négociable. Alors quand on dit ça, ça te pétrifie. Mais quand tu es l'Américain moyen, il ne veut pas changer, il veut continuer à vivre. Les éoliennes, c'est fantastique, c'est une énergie gratuite. Ah oui, mais pas dans mon jardin, ça fait du bruit, ça ennuie les oiseaux, ça empêche de dormir. Voilà, on est humain avec nos faiblesses, on veut garder notre petit camp à soi, notre petit cocon dans lequel on est bien. Je crois que c'est ça essentiellement qui freine, hein, tout simplement. Mais on est humain, il faut l'accepter et puis essayer de se donner des coups de pied dans le derrière. C'est difficile, mais on peut y aller. Bon, on arrête là.
Peut-être une dernière question avant de passer aux dédicaces. Au milieu. Ah, attendez, il y a le micro.
Un petit problème de micro qui permet de parler fort.
Oui, pas de soucis.
Je parle fort.
Allez-y.
Je suis très d'accord quand même avec Jean-Pierre, du coup. Sur l'effet que voilà, peut-être le passé, il n'était pas mieux ou pire, voilà. Et que quand même. Après, aujourd'hui, il y a eu un moment dans le passé aussi où on faisait esclaves des autres hommes. Peut-être aujourd'hui, on esclavise. On esclavise des animaux. Donc, je suis très d'accord avec ça.
Il y a encore beaucoup d'esclaves humains, vous savez. Hein.
Oui, en plus. C'est ça. Je suis très convaincue que la science-fiction soit faite aussi justement pour exacerber des aspects très particuliers de notre vie actuelle qui nous inquiètent. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et je pense que si la science, si elle est née, la science-fiction, c'est parce que la science est rentrée vraiment dans notre vie et que la science-fiction fait un travail énorme de divulgation des scientifiques. Et je pense que c'est très important pour tout le monde et que c'est pour ça aussi que c'est une littérature majeure. Tout ça, c'est une présentation, pas pour poser ma question, parce que ma question, elle est tout bête. C'est une question pour Alain Damasio. Je voulais savoir si vous faisiez de la grimpe ou vous y appuyez à des scientifiques pour en savoir un peu plus sur la montagne, vu qu'à la fin de la Horde du Contrebande, il y a des passages qui sont un peu aussi techniques sur la vie sur la montagne.
Oui, j'en ai fait jeune, entre 16 et 20 ans, si je me souviens bien. Voilà, mais j'ai pas fait d'alpinisme. L'alpinisme, ça me fascine, mais j'aurais bien trop la trouille pour, pour le faire. Non, j'ai fait de l'escalade en falaise. Voilà. Et le reste, après, bah, c'est de la lecture, c'est de l'inspiration.
Je vous propose qu'on aille escalader le libraire pour la séance.
Une dernière.
Voilà, je suis là depuis un moment. Hop. Il est 8h, presque.
Ouais, allez, encore 2 minutes.
En fait, l'écologie, vous avez passé la dernière semaine et demie, pendant son cycle de l'écologie, vraiment comme les deux possédés, on a un effet politique et écologique, le capitalisme, l'anarchie, l'environnement, et puis le monde des forêts, qui est un genre d'avatar. Plus subtil. Et je sais pas si vous avez influencé si vous faisiez partie de lecture.
Alors moi, définitivement, c'est un de mes auteurs phares. Donc ouais, clairement. Même s'il est dépossédé, c'est vraiment très politique. Hein. C'est vraiment une utopie. C'est de la vraie science-fiction qui traite d'utopie. Donc, mais ouais, le nom du monde des forêts, surtout.
Moi, j'ai jamais lu, on me l'a recommandé 150 fois et désolé, je ne l'ai pas encore lu.
Une des rares utopies qui, pour le coup, est vraiment réaliste. Ah
ouais.
Donc, on n'est pas dans l'utopie, c'est un vrai roman de SF.
C'est bon. Alors, Audrey va nous dire un petit mot pour conclure.
Alors, c'était juste pour vous dire qu'après, il y a un petit buffet avec une séance de dédicace. Où vous pourrez encore torturer ces trois auteurs. Que je remercie encore, ainsi que Jérôme, ainsi que Julie Lartouget, au fond de passage, et ma collègue Noël, sans qui j'aurais vraiment eu du mal ce soir.
Au revoir. Merci à tous.